Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler du pass sanitaire, mais plutôt d'un pass spirituel, parce que c'est, je ne veux pas m'allonger sur le pass sanitaire, mais pour nous, enfants de Dieu, c'est le pass spirituel, n'est-ce pas, qui est important pour nous. Ce pass qui va nous permettre d'aller dans l'autre monde, dans le monde du Christ, dans la vie éternelle. Et ce passe, tout le monde ne l'a pas encore. Et il n'existe pas vraiment de vaccin, si ce n'est la foi en Christ, n'est-ce pas, qui peut nous permettre d'obtenir ce passe. Et plus précisément, ce matin, je vais vous parler d'un test PCR. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer vers vous avec un écouvillon pour récupérer quelques petites substances dans votre nez. Mais j'ai rebondi un petit peu sur cette notion de test. Test PCR du disciple, j'ai appelé mon message ce matin. Le test PCR du disciple, on va voir trois notions là-dedans. D'abord, la préférence pour Jésus. Ensuite, le courage. Et enfin, on ne voit pas tout, le renoncement. Vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, vous ne me demanderez pas pourquoi j'ai choisi ce texte. D'habitude, pendant l'été, les frères et sœurs qui me connaissent savent que j'aime bien prêcher sur les psaumes. Et nous avions vu le psaume 67 au mois de juillet. Et le Seigneur, j'ai cherché à savoir vraiment ce qu'il voulait que je partage. Et il semble avoir insisté sur Luc 14, chapitre 14, versets 15 à 25. Je vous dirai pas pourquoi, je ne sais pas le fond de sa volonté, mais toujours est-il qu'en cherchant, ce texte revenait sans arrêt. Il m'avait interpellé il y a quelque temps, et je me suis dit, bon, ben allons-y, allons-y Seigneur. Alors, vous le connaissez très bien ce texte de Luc 14, 15 à 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Afghanistan en lisant ce passage, parce que en ce moment, les talibans sont en train de conquérir le territoire et l'armée afghane est largement insuffisante, malgré des années de formation et d'efforts, en particulier de nos amis américains. Bref, ça c'est une parenthèse. « Ainsi donc, dit Jésus, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors, nous sommes dans une période estivale, on l'a remarqué, n'est-ce pas? Ne serait-ce qu'avec la chaleur dont vous souffrez en ce moment. Et vous êtes sympa de rester assis pour m'écouter. C'est un temps de relâche et bon, j'aime bien rappeler chaque année que avant quiconque, Dieu créa la nuit pour se reposer 365 fois dans l'année, n'est-ce pas? Ça fait pas mal d'heures de congé, ça déjà. Et puis 52 jours annuels pour le repos hebdomadaire. Nous qui avions à peu près 3 semaines de congés par an, 52 jours, c'est quand même mieux. Hein. Bon, ça, c'est une petite parenthèse aussi. Dans 15 jours, c'est déjà la rentrée. Alors là, je veux casser le moral à personne. Mais vous avez remarqué que les fournitures scolaires sont déjà au rayon des supermarchés depuis plusieurs semaines. Et pas question de briser le charme des vacances pour ceux qui le sont encore. Hein. Donc profitez bien, mes amis, du temps de relâche qui vous reste. Et bon courage à ceux qui ont repris, n'est-ce pas Charlotte? C'est aussi l'occasion pour nous de nous... Alors j'aurais préféré le faire dans 15 jours peut-être, ce message, mais c'était pas mon tour. Donc le Seigneur a choisi de le donner aujourd'hui. Et puis ceux qui ne sont pas là, ils pourront l'avoir en podcast, c'est comme ça qu'on dit, en bon français, Auvergnat, hein, c'est ça, sur notre site de l'église EPMA. Alors c'est l'occasion de nous replonger dans la mission de l'église qui est d'aller et de faire de toutes les ethnies des disciples de Jésus-Christ en les baptisant et en les enseignant. Et évidemment, on va pas les forcer, hein. Parce que quand on lit ça, on se dit, allez, il faut... Non, c'est la foi, leur foi qui va répondre à l'appel du Seigneur. Alors, vous remarquez que ce n'est pas seulement... Notre mission n'est pas seulement d'assurer un culte tous les dimanches. Et je disais à notre ami Jacques ce matin que le Seigneur nous avait fait la grâce de pouvoir assurer tous les cultes depuis 40 ans. Il y a eu suffisamment d'ouvriers et certains ont dû donner beaucoup plus même que d'habitude pour que l'été, il y ait toujours un culte, même si on est 3 ou 4 le dimanche matin. Donc ça en fait partie de cette mission, mais ça n'est pas que ça, la mission que Dieu donne à son Église. Ça n'est pas non plus simplement assurer un service envers les frères et sœurs, et Dieu sait combien de services il existe dans nos églises. Là, par exemple, il y a les enfants en ce moment. C'est un service super utile et qui fait partie de cette mission aussi d'édification du corps de Christ, n'est-ce pas? Mais la mission du Seigneur, c'est avant tout de faire de nouveaux disciples, de célébrer de nouveaux baptêmes et de voir l'Église grandir. Ça, c'est notre défi pour chaque rentrée. Et chaque rentrée, on peut se dire ça en disant, est-ce que l'objectif est atteint cette année? L'occasion est aussi de nous rappeler ce qu'est un disciple. Ça n'est pas un paroissien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Ça n'est pas non plus un protestant évangélique. Ça n'est pas un adepte d'une mission chrétienne, d'une dénomination. Dans la Bible, on ne voit pas ces notions-là. On voit la notion de disciple. Il y avait quelque chose, mais... Donc c'est l'occasion de faire un test PCR, 100 tiges dans le nez, pour examiner notre préférence pour Jésus, notre courage et notre renoncement. Il y a trois conditions pour suivre Jésus dans ce texte. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a trois versets, et c'est ça qui m'a interpellé, parce que pourtant je lis ma Bible depuis 40 ans, et il y a quelques semaines de ça, j'étais en train de lire l'évangile de Luc, et je tombe sur ce texte. Et je dis, mais c'est incroyable, cette insistance de notre Seigneur sur ces trois vérités, sur ces trois conditions pour le suivre. Alors au verset 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Waouh ! Ensuite, au verset 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Et au verset 33, « Ainsi donc, aucun de vous, il n'y a pas d'exception, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. » Quand on lit ça, on se dit, oh ben non, je suis pas disciple, Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais dire? Ce test est valable pour toute personne qui s'approche du Seigneur et qui n'est pas encore engagée. Peut-être ce matin dans la pièce, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans ce cas, on pourrait leur dire, tout simplement, sortir un verset du texte biblique et dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est vrai. Mais est-ce que toute la vérité est là, dans l'engagement que le Seigneur attend de ses disciples? Donc, nous devons être honnêtes avec les nouvelles personnes qui vont peut-être, nous allons peut-être rencontrer dans les semaines, les mois, les jours qui viennent. Si elles sont attirées par le Seigneur, elles ont envie de le suivre. je crois qu'honnêtement, nous ne pouvons pas leur dire seulement « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». C'est vrai que c'est la base, mais que l'enseignement du Seigneur va plus loin que ça encore. Et ça ne veut pas dire que si je remplis ces trois conditions, c'est ça qui va me sauver. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ça, c'est notre initiative, notre responsabilité. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, même si on a commencé à leur présenter ce merveilleux salut gratuit, nous devons aller plus loin dans notre enseignement. Si l'Église a pour mission de faire des disciples, elle doit leur enseigner ce que Jésus a enseigné pour des disciples. N'est-ce pas? Alors ce test est aussi valable pour nous qui le servons depuis des années, parce que c'est pour nous, c'est un défi permanent. Pour nous, c'est une remise à niveau, on va dire. On est tout le temps remis à niveau avec le Seigneur, hein, parce que on se rend compte que notre vie, plus on s'approche de lui, plus on va dans son sens, plus on voit nos manquements et nos incapacités et tout ça, quoi. Alors un test qui se trouve dans un contexte aussi. Dans Luc 14, 25, Luc dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Si on s'arrêtait là, on dirait waouh, qu'est-ce qu'il avait comme succès, n'est-ce pas? Quel succès! De grandes foules sont intéressées par Jésus. Wow, génial! Mais qu'est-ce qui les intéressait vraiment, ces foules? Est-ce que c'était d'être nourri à l'œil? Alors, nourri à l'œil, pour nos amis peut-être américains, c'est un terme un peu franchouillard. C'est nourri gratos, gratuitement. Voilà, traduction, parce que il faut traduire les langages un peu étrangers, les langages franchouillards. En tout cas, ce qui les intéressait aussi, certainement, c'était d'être guéris de leurs maux. D'être nourris, comme je l'ai dit, même Jésus leur dit, si vous m'avez suivi, c'est parce que vous avez été rassasiés, n'est-ce pas? C'est parce que je vous ai donné à manger. Ou c'est d'écouter de belles histoires qu'on appelle des paraboles. C'est intéressant, c'est distrayant même parfois, une parabole. Sauf que des fois, quand on en connaît le sens, bon, on relativise notre enthousiasme. C'est d'être en compagnie d'un homme sympathique, probablement, et plein d'amour. Je pense pas qu'en la présence de Jésus, on était mal. On était bien. Ou peut-être de rencontrer d'autres, parce que c'est l'occasion d'échanger avec d'autres personnes. Si de grandes foules venaient au culte devant nous, devrions-nous en conclure qu'il s'agit d'un succès? On serait content, c'est sûr, hein, si la salle est encore plus pleine aujourd'hui, et que toutes les salles de culte de France et de Navarre seraient envahies de foules. Mais ça serait bien, mais est-ce qu'on devrait conclure à un succès? Mais ce ne serait pas suffisant. Jésus voit clair, son but n'est pas la popularité. Ça n'est pas la facilité. Sinon, pourquoi dire des paroles qui semblent a priori aussi repoussantes, dures à entendre? Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ces paroles, elles me paraissent dures. Elles me paraissent difficiles, exigeantes, rigoureuses. Il leur dit, si quelqu'un vient à moi, en somme, voilà mes trois conditions. Je ne sais pas si cet enseignement nous a été donné à tous au début de notre conversion, ou est-ce que nous l'avons appris progressivement. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être une certaine pédagogie aussi. Jésus en avait. Et là, il s'est pas dit « Oh, cette foule, elle n'est pas prête à entendre ces paroles. » Il leur a dit ces paroles à la foule. Il n'y a pas de salut au rabais. Jésus ne cherche pas à nous séduire par une espèce d'illusion d'aller au ciel, etc. Il n'y a pas d'un côté les sauvés et de l'autre les disciples. Il n'y a pas deux castes dans l'Église. Parfois, on peut avoir un peu ce sentiment de dire « Ouais, mais moi, je m'engage pas trop parce que... » Mais si Jésus a donné pour mission à l'Église de faire des disciples, ça veut dire que chaque disciple qui se fait baptiser doit passer par le filtre de ces trois conditions. Pourquoi devrait-il échapper à ces trois conditions, n'est-ce pas? Le suivre représente un prix à payer. Alors évidemment, ça n'est d'aucune commune mesure avec le prix que Jésus a payé pour nous, que nous ne réalisons pas du tout. Parce qu'on voit bien sûr son sang, on voit tout ça, mais sur le plan spirituel, ce qu'il a dû endurer, lui qui était saint, qui était fils de Dieu, porté sur ses épaules, dans son cœur, dans son corps, être maudit à notre place, être jugé à notre place. Je ne sais pas si un jour on arrivera à calculer ce prix, il est incalculable. Mais Jésus, dans son honnêteté, il nous donne le prix en quelque sorte à payer pour le suivre. Et la meilleure preuve, c'est qu'il va nous inviter à un calcul. Par exemple, si on construit une maison, si on veut arriver au bout, il faut budgéter au départ, hein. Sinon, on ne va pas arriver au bout. Alors, sans vouloir nous faire peur, un jour j'ai lu ça dans un livre de David Platt, dans son livre « Suis-moi », page 78-79, pour ceux qui auraient le livre ou qui voudraient l'acquérir. Je ne sais plus pourquoi j'avais pris ce livre, est-ce que c'était dans le cadre du projet d'église, je ne sais plus. David Platt nous rappelle des réalités qui ne doivent pas nous faire peur, mais qui font partie de l'histoire de cette merveilleuse église qui un jour sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'apôtre Pierre aurait fini sa vie crucifié à l'envers. Bon, fait historique, bon. André, prédicateur en Grèce, aurait aussi été crucifié. Jude, près de la Turquie, fut battu à mort. Thomas aurait été transpercé d'une lance en Inde. Jacques est tué par l'épée sur ordre du roi Hérode. Philippe lapidé. Matthieu brûlé vif. Jean déporté dans l'île de Patmos. Et que dire de Jean-Baptiste, de Étienne, des témoins d'Hébreux 11 et tous nos frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés jour après jour, en particulier en Inde, mais dans beaucoup d'autres pays encore. Notre situation nous n'est pas si mal, n'est-ce pas? Nous pouvons être reconnaissants que pour l'instant, la France a connu des temps de persécution. Rappelons-nous la réforme huguenote. Nous sommes pour l'instant passés entre les gouttes, mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Avons-nous encore pourtant de la saveur dans ce monde? Et une saveur qui interpelle nos contemporains. Jésus parle du sel à la fin de ce texte de Luc 14, au verset 35. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Première condition pour suivre Jésus, verset 26, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Rappelez-vous que l'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, s'est vue reprocher, quoi? Vous rappelez ce que Jésus lui a reproché? D'avoir abandonné son premier amour. Et certains traducteurs disent « premier amour, c'est amour premier ». Et en fait, c'est pas simplement le temps où on était amoureux du Seigneur, hein, comme dans une relation sentimentale. L'amour premier, c'est un amour qui est vraiment au-dessus de toute forme d'amour. L'amour premier. Éphèse avait abandonné son premier amour. Donc ce qui prouve que c'est possible que même une église perde son premier amour. Ça, c'est le premier test. C'est ma préférence pour Jésus. Est-ce que Jésus, ce matin, a ma préférence par rapport à mes parents, mon conjoint, mes frères et sœurs, ma propre vie? Et le mot préféré est même faiblement traduit, puisque littéralement, c'est le mot haïr. Alors ça aussi, ça craint. Ça craint, n'est-ce pas? Si tu n'es pas prêt à haïr ton père, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut dire que la culture hébraïque ne possède pas de comparatif. Aimer mieux, ça n'existe pas. Ce qui explique ce contraste presque choquant entre haïr et aimer. Si on aime l'un, on va haïr l'autre. C'est un peu ça l'idée, mais on va voir que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est comme un peintre qui n'aurait que deux couleurs à sa disposition. C'est l'un ou l'autre, il ne mélange pas. Le choix de ce mot « haïr » est volontairement choquant parce qu'il s'agit d'un amour incomparable, hors norme, supérieur. En somme, c'est aimer Jésus plus que quiconque. Voilà pourquoi il y a ce contraste. Mais si on n'étudiait pas la Bible dans son ensemble, vous avez des gens, ils vont rompre avec leur famille. Ah mais le Seigneur, il l'a dit. Si on n'est pas prêt à haïr son père et sa mère, alors je romps avec ma famille, ce qui n'est pas du tout l'enseignement du Seigneur. Et la preuve, Jésus nous demande par ailleurs d'honorer nos parents, et non pas de le haïr, vous êtes d'accord avec moi, hein ? Il nous demande d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Il nous demande de ne pas irriter nos enfants, mais de les éduquer selon le Seigneur, donc avec grâce, avec vérité. D'aimer notre prochain, et non seulement d'aimer notre prochain, mais d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il dira même, personne n'a jamais haï son propre corps. Donc on voit bien que le mot haïr doit être pris avec des pincettes pour bien le comprendre dans son contexte, à la fois biblique et contexte hébraïque, ce contraste qui est un peu choquant, volontairement choquant, pour nous réveiller en quelque sorte, pour attirer notre attention sur la suprématie de l'amour que nous devons avoir pour Jésus par rapport à tout autre amour. Mais si Jésus est mis en concurrence avec qui que ce soit, c'est lui que je dois préférer. Et ça me rappelle une jeune femme, il y a très longtemps de ça, que je préparais pour le baptême. Elle semblait prête et le jour où je suis allé la voir chez elle, elle m'avoue, elle me dit, « Eh ben, écoute, Gérard, tu sais, finalement, je ne vais pas me faire baptiser. » Ah bon ? Moi, j'étais surpris, je tombais des nues. Et elle me dit, « Non, parce que ça va déplaire à ma famille. » Vous imaginez la tristesse du Seigneur ? Eh bien, là, dans ce cas précis, elle a préféré aimer sa famille plutôt que d'aimer le Seigneur avant tout. C'est un exemple, hein. C'est un peu triste de passer par là. On a même un cas extrême dans le Deutéronome, au chapitre 13, versets 7 à 8. Si ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ta poitrine, ou encore ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, prie parmi les dieux des peuples qui vous entourent, qu'ils soient près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne te montreras pas d'accord avec lui et tu ne l'écouteras pas. Ta préférence ira au Seigneur. Et parfois c'est un peu tendu hein, avec les familles. C'est des situations malheureusement qui sont courantes. Et moi quand j'ai accepté le Seigneur, c'est vrai que je m'étais préparé à ça. Et pour moi c'était clair dans ma tête. Le Seigneur d'abord. Et c'est une grâce de Dieu, parce que c'est pas forcément évident. Il se trouve que moi, j'avais 22 ans, j'étais indépendant financièrement, j'avais mon job. Donc, j'aurais été franchement attristé, bien sûr, que la famille me rejette, socialement parlant, mais j'étais prêt à ça. Pour moi, le Seigneur, il m'avait préparé vraiment. Si ça t'arrive, t'inquiète pas, choisis-moi. Et malheureusement, il y a des gens pour qui c'est pas le cas, surtout les plus jeunes, comme en Inde, des jeunes filles, par exemple, qui se sont tournées vers le Christ et qui ne sont pas indépendantes financièrement et qui sont obligées de vivre leur foi d'une manière un petit peu secrète, parfois même, un peu comme Joseph d'Arimathée ou Nicodème, ou peut-être au moins pendant un temps. Mais après, on espère que le Seigneur leur permettra de montrer vraiment toute liberté leur préférence pour Jésus. Jésus dira en Luc 8, 21, « Ma mère et mes frères, alors qu'ils venaient le chercher là où il était, vous vous rappelez de cette histoire, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà ma vraie famille. » Et pourtant, Jésus est le premier à confier sa mère à son meilleur ami dans le moment le plus tragique de sa vie, cloué sur une croix, après avoir été battu pendant toute une nuit, après avoir porté sa croix sur une certaine distance, il va penser à confier sa mère à Jean, son meilleur ami. Voyez que le terme haïr doit être pris avec des pincettes, n'est-ce pas ? Combien nous souhaitons que notre famille de chair connaisse le Seigneur, n'est-ce pas? Mais ils doivent sentir chez nous qu'il n'y a pas de compromis possible en défaveur de Jésus. Et je pense que ça peut leur parler. Parce que d'un côté, on va les aimer, on va chercher à les gagner pour Jésus, on va respecter leur résistance, on va respecter leur croyance, mais d'un autre côté, eh bien, nous restons droits dans nos bottes par rapport à notre Seigneur. Pas de compromission avec la famille, si elle voulait nous détourner de notre foi, nous dire « mais tu es dans tel mouvement, etc. » Préférer Jésus même à ma propre vie, combien il nous arrive parfois d'être centrés sur nous-mêmes, hein, n'est-ce pas, mes amis? Et on perd de vue le Seigneur, on le voit plus. On voit que nous, que nos problèmes. Et l'apôtre Paul l'avait bien compris quand il dit en acte 20, versets 22 à 24, « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Et pourtant, notre vie est précieuse. N'allons pas dire que notre vie vaut rien, qu'on vaut rien, qu'on est nul. Non, notre vie est tellement précieuse que je dirais gare à celui qui porte atteinte à notre vie, à notre intégrité physique. Nous sommes la prunelle de Dieu, des yeux de Dieu. Et le Seigneur, au début de la Genèse, il a donné un avertissement solennel. Celui qui versera le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Pour dire que Dieu ne souhaitait pas faire mourir les gens, mais pour montrer le prix de la vie. Et aujourd'hui, vous remarquerez que dans la société environnante, la vie n'a plus de prix. On égorge pour un oui, un non. On agresse pour un oui, un non. On donne un coup de couteau pour un oui, un non. On a perdu cette crainte, cette vision d'un Dieu qui accorde beaucoup de préciosité à la vie, de valeur à la vie humaine. Mais Paul dit qu'il considère la vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La pile est peut-être faite. Ah voilà. Oh, poupoup. Tu vas trop vite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon. Oui, d'accord. Ok. Et Jésus de nous dire en Luc 9, 24, 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Il ne nous laisse pas d'illusions. « Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ?» Alors là aussi, on pourrait faire dire n'importe quoi à ce verset. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra, alors j'ai intérêt à perdre la vie, alors j'ai intérêt à m'immoler comme le firent certains bonzes pendant la guerre du Vietnam. On a vu des bonzes s'immoler par le feu pour protester. Non, c'est pas du tout le sens de cette parole. On voit bien qu'il fait en contraste, il met en contraste l'amour pour le monde, gagner le monde. Préférer Jésus et lui consacrer notre vie, effectivement, nous fait passer à côté de plein de choses. J'espère que nous n'avons aucun regret par rapport à ça. Comme si on perdait son temps à servir Christ, mais que de récompenses nous attendent dans l'autre monde. Ça, c'est le Seigneur qui nous le promet, n'est-ce pas? Nous ne devons pas être nostalgiques de ce monde où nous étions avant de connaître Jésus, où peut-être on avait un peu plus d'argent, ou un peu plus de popularité, ou un peu plus d'amis peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on arrive à la deuxième condition maintenant pour suivre Jésus, verset 27. « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Que signifie porter sa propre croix? Alors évidemment, c'est pas un pendentif. Hein. Ça serait facile, hein. Je porte ma croix. Bon, encore que ça peut être un petit témoignage, hein, après tout. Mais c'est pas vraiment le sens de ce texte. Parfois, porter sa croix est vu comme gérer un fardeau difficile, un enfant handicapé à vie, par exemple. J'entendais ma mère dire, quand elle était devant cette situation, « Ah, mais quelle croix il doit porter sa croix de cette façon, comme pour expier son péché, n'est-ce pas ?» Nous, on sait qui a expié nos péchés, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de ça, de porter cette croix au sens de mourir. On n'a pas à mourir sur une croix. Ici, le sens est différent. Que savaient les disciples de la croix alors que Jésus n'était pas encore passé par là ? C'est une question que je me suis posée souvent. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il utilise ce symbole de la croix alors que lui n'est pas encore passé par là ? Les disciples n'ont pas compris encore à l'époque ce qui attendait Jésus à la croix. C'était trop difficile pour eux de capter ça. Alors, pourquoi prendre cette image ? En fait, est-ce que c'était le poids du bois qui les impressionnait ? Non, je pense pas. À l'époque, l'usage de la croix était largement répandu dans plusieurs pays et elle était réservée d'abord aux esclaves condamnés à mort avec le motif, vous savez, au-dessus de la croix. Il y avait le motif. Et souvent, le condamné, en plus de sa sentence, en plus d'avoir été souvent maltraité pendant la nuit précédente, comme Jésus d'ailleurs, devait porter sa propre croix. Jean nous dit que Jésus portait sa croix en sortant de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Et il y a trois évangélistes qui signalent que Simon de Cyrène fut forcé de porter la croix de Jésus sur une partie du trajet allant du prétoire de Pilate, gouverneur romain, jusqu'à Golgotha. Mais nous, c'est pas ça. Nous ne portons pas la croix de Jésus, nous ne portons pas la croix que portait Simon de Cyrène, mais nous sommes appelés à porter notre propre croix. Il ne s'agit pourtant pas de nous mortifier, et il ne s'agit parce que Jésus est mort pour nous une fois pour toutes. Alors qu'est-ce que c'est que cette croix ? En fait, c'est une démonstration publique, un peu comme être le sel de la terre. Et vous comprenez le lien maintenant qu'il y a entre le sel de la terre et les conditions pour être disciple ? Ça passe par là. Être le sel de la terre, c'est avoir une saveur pour les gens qui nous entourent. Ça veut dire qu'ils réagissent à ça. Si vous n'avez pas de sel dans une soupe, c'est horrible, hein ? Si vous en avez trop, c'est horrible aussi. Mais les gens autour de nous, quelle saveur avons-nous pour eux ? Être lumière, ça se voit aussi. La Bible parle même de bonne odeur. Alors, pour les uns, une odeur de mort, pour les autres, une odeur de vie. Enfin, chacun de nos contemporains réagit par rapport à nous en fonction de ce que l'on rayonne, de ce que l'on sent. Alors, c'est une démonstration publique et non une piété clandestine. Je l'ai déjà dit, ça. Par exemple, le baptême, c'est une démonstration publique et c'est presque un peu dommage que ça se fasse dans des lieux un peu trop clos. Je ne sais pas, ça serait peut-être mieux de le faire au bord de Saône, il y a beaucoup de passages. Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, le but du baptême, c'est vraiment un témoignage public devant les hommes, devant les anges, quelle que soit leur nature. Et c'est pareil pour le témoignage régulier auprès des incroyants. C'est une façon aussi de porter sa croix, c'est-à-dire d'être vu, d'être entendu. En Luc 9, 26, Jésus nous dit « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Donc, porter une croix, en fait, faisait honte. Et c'était voulu. Les autorités romaines le faisaient exprès de lui faire porter la croix pour qu'il vive cette honte jusqu'au bout d'avoir commis un crime, par exemple. C'était quand même très dur, très cruel, n'est-ce pas ? Pour nous, c'est autre chose, c'est une identification avec la croix de Jésus. Comme dit Paul, j'ai été crucifié avec Christ. C'est une acceptation de mourir à son ego. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit en moi par l'Esprit Saint. C'est une acceptation de la volonté de Christ dans notre vie, le meilleur et le pire. C'est une acceptation de porter son opprobre, le cas échéant. Il ne faut pas le rechercher, mais ça peut arriver de supporter une certaine hostilité. Et nous devons être prêts à ça et nous préparer à ça. Troisième condition pour suivre Jésus, c'est le verset 33. « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Alors là aussi, on peut l'interpréter d'une manière complètement hors de sens. Il ne s'agit pas d'un vœu de pauvreté, comme certains l'ont compris, ni de s'exposer au dénuement. La preuve, c'est que le Seigneur nous dit de travailler pour de nos propres mains, pour gagner notre pain honnêtement et pour aider même ceux qui sont dans la panade. Ça n'est pas de mépriser les biens matériels en disant « une voiture, qu'est-ce que c'est une voiture ? J'ai pas besoin de l'entretenir, j'ai pas besoin de la laver, j'ai pas besoin de faire la vidange, etc. Hey, ta bagnole, c'est le Seigneur qui te l'a donnée, n'est-ce pas ? Tu crois qu'il serait content que tu n'en prennes pas soin en méprisant les biens matériels ? Sûrement pas. Je rappelle que nous sommes des intendants des biens que le Seigneur nous donne. Nous devons les gérer avec sagesse, avec intelligence. Dieu nous donne tout afin que nous en jouissions, mais nous devons apprendre à savoir nous contenter, ça aussi c'est une valeur biblique, et prendre de la distance par rapport à nos biens. Notre Père sait que nous en avons besoin de nourriture, de boissons, de vêtements. Le royaume de Dieu doit être notre priorité et tout nous sera donné en plus. Vous connaissez bien ça. Luc 12, 15 nous dit « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. » C'est Jésus qui parle. « Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Nous sommes résidents temporaires et étrangers ici-bas. Nous l'avons vu il y a un mois, ça, dans la lettre de Pierre. Et puis dans Colossiens, Paul dit au chapitre 3, verset 2, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Nous ne sommes propriétaires de rien, mais nous ne sommes qu'usufruitiers. Vous connaissez le mot « usufruitier » ? Nous n'avons droit qu'à l'usage de ces choses. Mais le jour où nous retournons auprès du Seigneur, ces choses vont passer à un autre. Nous ne sommes pas vraiment propriétaires à vie, enfin pour l'éternité, mais nous sommes intendants. Même si nous gérons au mieux nos biens matériels, nous devons avoir un certain détachement et se dire « mais si je perds ça, est-ce que je tombe dans une dépression absolue ?» Et c'est vrai, quand on voit les gens qui ont subi les inondations, qui ont subi les incendies de forêt, ils ont tout perdu, tout. Leurs photos de mariage, leurs voitures, leurs maisons, ils ont tout perdu. Vous imaginez, nous, si on perd quelque chose, ben on va être content de se raccrocher au Seigneur. Hein. Parce que sans le Seigneur, je ne sais pas comment ces gens font pour triompher d'une telle épreuve. C'est horrible, vous avez travaillé toute votre vie pour vous faire une maison, et d'un coup, tout s'en va. Mais vous savez, le Seigneur, il peut nous éprouver hein, aussi, pour voir notre attachement. Alors, sommes-nous prêts à des renoncements ? À quoi et à qui sommes-nous attachés le plus ? Aux choses d'en haut ou à celles qui sont sur la terre ? Et j'aime bien cette parole de Job, très connue aussi, Job 1, 21, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. » L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et vous savez, quand ma maman est décédée, il a fallu que je gère la succession, nous n'étions que deux frères, mon frère avait horreur des papiers, donc il a fallu que je me le coltine, et moi ça tombe bien, j'aime les papiers, et j'aime les chiffres. Donc, mais ce qui m'a frappé, je me suis dit, vous savez, vous arrivez dans une maison qui est froide, en plus c'était en plein hiver, il neigeait, la maison, il faisait 14 degrés dans la maison parce que la chaudière tombait en panne toutes les 5 minutes. Et vous aviez des tas de biens là, qui n'étaient pas à vous pour l'instant. Et vous vous disiez, mais ma mère, mon père ont travaillé comme des durs pour avoir cette maison, pour acheter quelques terrains agricoles, et puis le linge dans les armoires et les meubles, qui n'étaient plus de mode en plus. Mais tout ça, vous vous dites, mais voilà, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus besoin de ça, ils n'en sont plus propriétaires. Et moi, il faut encore que je passe devant le notaire pour devenir propriétaire et que je paye encore des droits pour devenir propriétaire pendant quelques années. Et puis après, je donnerai à mes enfants. Donc, j'espère que nous, chrétiens, nous savons qu'ici-bas, nous ne sommes pas propriétaires de rien. Nous sommes usufruitiers seulement. Alors le test PCR du disciple, parce qu'on va arriver à la fin, je rappelle, c'est préférence pour Jésus, courage et renoncement. C'est des mots qu'on n'aime pas trop entendre.
Je le conçois. Et vous savez, j'aurais préféré prêcher sur un psaume. Mais le Seigneur a insisté pour que je prêche sur ce texte. Et donc pour moi, c'est aussi une remise à niveau. C'est pas parfait, croyez-le bien. Croyez-le bien. Et peut-être dans votre vie, c'est pas parfait non plus. Et peut-être que vous êtes de ceux qui s'approchent du Seigneur et vous dites « Wow, ça fait pas envie, hein ?» Et pourtant, réfléchissez bien. Réfléchissez bien à qui est Jésus. Et vous verrez que ça vaut la peine de le suivre. Ça vaut la peine de le préférer. Ça vaut la peine d'avoir du courage, parce que c'est lui qui nous donne du courage. Ça vaut la peine de renoncer, parce que lui nous donne toute chose, mais il peut nous enlever toute chose. Donc, c'est pas un problème. Alors, je vous laisse en conclusion deux passages que j'ai trouvé très beaux, qui résument un peu tout ce qu'on a dit. Et c'est dans le livre des Hébreux qu'on le trouve, chapitre 13, versets 12 à 13. Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant, en acceptant cette idée d'être humilié comme lui, ce qui n'arrivera pas forcément tout le temps, mais soyons prêts. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Notre cité, elle est là-haut, et elle est tellement plus belle, tellement mieux meublée, tellement plus précieuse, et tellement elle s'use pas dans le temps, contrairement à nos propriétés qui s'abîment. On a beau faire des travaux, on est tout le temps en train de recommencer. Et les voitures, faut les changer. Et les portables, faut les changer. C'est jamais fini. Un jour, on n'aura plus ces soucis-là. Alors, Jésus nous attend dehors. Vous avez remarqué ça? Parmi les incroyants, hors du camp, hors de nos zones de confort, hors de nos lieux de sécurité religieuse. C'est comme si le Seigneur nous disait, sortez, allez, faites des disciples, mais parmi les incroyants, allez parmi les incroyants. Et pour moi, ça, c'est une difficulté aussi, parce que en étant à la retraite, c'est pas évident. On n'a pas les mêmes relations que quand on travaille, quand on va à la cantine, on voit du monde, etc. Alors on parle de Jésus et tout. Une fois à la retraite, c'est plus difficile, hein. Il faut, alors que le Seigneur nous inspire, nous les retraités. Alors certains sont dans des villages où ils ont un témoignage et que c'est peut-être une solution, je sais pas. Et puis Hébreux 6, versets 10 à 12. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Et ça, je voulais le dire à cette église. Bon, beaucoup ne sont pas là. Mais beaucoup de gens dans cette église servent les autres. Vous avez vu le groupe de louanges, il y a la technique, il y a les enfants et j'en passe. Et ça, je tenais à le dire, à le rappeler au nom du Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, votre œuvre, le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux chrétiens. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. Et là, ça s'adresse à tous ici, pas simplement ceux qui servent les autres, ceux peut-être qui n'ont pas encore trouvé leur place, qui n'ont pas encore trouvé leur ministère, qui n'ont pas encore discerné leur don, parce que nous ne sommes pas là pour consommer, nous sommes là pour servir le Seigneur, n'est-ce pas? Et donc, le vœu du Seigneur, c'est que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Ça fait penser aux vacances, hein. Vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage promis. Alors, difficile d'avoir du zèle, d'être le sel de la terre, c'est-à-dire, en fait, réveillé spirituellement, sans respecter ces trois conditions pour suivre Jésus. Parce que c'est un prix à payer. C'est une préférence. Il faut du courage. Il faut parfois du renoncement. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande et c'est ce qui donne du piment à notre vie. Et c'est ce qui donne le sel dans notre vie aussi. Parce qu'on relativise l'importance de l'argent, des biens matériels. Mais on n'est pas extrémiste non plus. Le Seigneur nous donne un grand équilibre. Alors, c'est ainsi que nous ne nous relâcherons pas. Amen. Seigneur, c'est vrai que ce passage est a priori comme ça assez difficile. Mais nous l'acceptons, Seigneur. Nous l'acceptons parce qu'il vient de toi. Nous l'acceptons parce que nous ne voulons pas simplement faire partie d'une foule passive qui suivent Jésus par intérêt. Mais tu nous as appelés pour te servir. Toi-même, tu n'es pas venu pour être servi, mais pour servir les autres et pour te servir. Et Seigneur, merci de nous rappeler tes exigences, même si elles sont un peu longues à digérer parfois. Merci de nous rappeler ces exigences. Parce que toi, tu as un plan vraiment merveilleux pour chacun de nous. Et nous te prions vraiment que les personnes qui vont te rencontrer, te découvrir dans les heures, les jours, les mois qui viennent, ne soient pas rebutées par cela, mais au contraire, ils voient un appel solennel de ta part, un appel sérieux, un appel vraiment au-dessus de tout appel. Et tu mérites, Seigneur Jésus, que nous répondions favorablement à cet appel. Tu mérites, Seigneur Jésus. Tu as tout fait. Toi, tu as tout accompli. Et nous, il nous reste tellement à faire. Mais merci. Merci pour la joie de te servir. Et bénis chacun, bénis ton Église. Aide-nous à aborder cette rentrée sous un angle conquérant pour toi, Seigneur, non pas pour notre dénomination, mais pour la connaissance de ton nom. Apprends-nous, Seigneur, à te préférer à toute chose. Apprends-nous, Seigneur, donne-nous du courage. Apprends-nous à savoir comment porter notre croix dans ce monde qui est tellement loin de toi, Seigneur, tellement porté aux choses matérielles, aux choses de l'argent, à toutes sortes de trafics. Seigneur, aide-nous à briller, aide-nous à être le sel de la terre pour que ce monde réagisse, que ce monde, que tes élus se réveillent enfin et s'ajoutent à ton Église. Et c'est toi qui peux les ajouter et les convaincre par ton esprit. Et Seigneur, aide-nous aussi, si tu nous le demandes, à renoncer à ceci ou à cela pour ton ministère, pour que ton ministère avance. Dans ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen.